Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, votre Bible. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu, évangile de Matthieu, le chapitre 13, et nous lirons les versets 44 à 46. Matthieu, chapitre 13, les versets 44 à 46. Il y a un petit titre dans ma Bible, « Le trésor et la perle ». Le royaume des cieux est comparable à un trésor qui a été caché dans un champ et qu'un homme a découvert. Il le cache à nouveau et, dans sa joie, il s'en va, met en vente tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux est encore comparable à un marchand qui cherchait des perles fines. Ayant trouvé une perle de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans notre cœur.
Bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, comme c'est des vacances, je vous propose, et qu'il y a peut-être des personnes qui sont là pour la première fois, je vous propose de vous saluer les uns les autres et de vous faire un petit coucou avant de commencer notre méditation. Ça permet de mieux se connaître. Parce que c'est vrai que lorsqu'on arrive pour la première fois dans une église, on se sent parfois un peu seul. Alors, c'est bien de mieux partager la parole ensemble et de mieux se saluer comme l'apôtre Paul l'invitait très souvent. Savez-vous quelle est la découverte qui a été faite le 12 juillet 2012, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours? Eh bien, des archéologues israéliens ont découvert à Arsouf, à une quinzaine de kilomètres de Tel Aviv, une jarre pleine d'or. Il y avait en fait 108 pièces d'or, datant de l'époque des croisades, dans un ancien château médiéval. D'ailleurs, ce château médiéval avait été notamment visité par Richard Cœur de Lion. Ils ont cherché, ils ont trouvé une fortune. Ah, ces trésors qui font rêver, ces trésors que bien nombre de personnes recherchent à travers le monde. Encore mieux, il y a simplement quelques jours, à l'île de Guernesey, une île anglo-normande, eh bien, il y avait là un homme qui cherchait un trésor depuis près de 30 ans. 30 ans pour chercher un trésor. Il avait entendu parler qu'il y avait eu des pièces d'argent qui avaient été déposées dans l'île de Guernesey, enterrées. Et pendant 30 ans, il a cherché ces pièces d'or. Et finalement, il a trouvé. Il a trouvé des milliers et des milliers de pièces d'argent datant de l'époque romaine. La valeur est estimée à 6 millions d'euros. Savez-vous que pendant leurs vacances, il y a à peu près 70 000 personnes qui sont en recherche de trésors, en France notamment. Alors, un trésor est au sens propre un ensemble d'objets d'une grande valeur et qui sont dissimulés ou perdus. Alors, nous avons tous entendu parler, par exemple, du fameux trésor de Toutankhamon. Ou alors, même plus récemment, du trésor du Titanic. Vous savez que lorsque le Titanic a coulé, il y a eu effectivement beaucoup d'objets précieux qui ont été perdus au fond de la mer. Eh bien, ce trésor a été récupéré et il semble qu'au cours de l'année 2012, eh bien, on va étaler ce trésor. Alors vous comprenez aisément que toutes ces réflexions, toutes ces informations m'ont fait penser à notre méditation d'aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et à partir du verset 44 à 46, texte que Philippe nous a lu tout à l'heure. Alors, le trésor caché, est la perle rare. Ce sont deux joyaux littéraires et qui témoignent finalement de ce que Jésus veut communiquer à ses auditeurs, à savoir que cet homme va trouver un trésor par hasard. Alors qu'il est occupé à faire un travail, cet ouvrier trouve un trésor dans un champ. Le trésor lui semble considérable. Il vend alors tout ce qu'il a pour pouvoir acheter le champ et s'approprier le trésor. La deuxième histoire met en scène un marchand qui cherche des perles fines, jusqu'à ce qu'il en trouve une fabuleuse, extraordinaire. Il se défait alors de tout son stock pour pouvoir avoir cette unique perle rare. Malgré les similarités que nous trouvons entre les deux paraboles, eh bien, le message n'est pas tout à fait identique. Alors que l'homme de la première est un pauvre salarié qui va découvrir ce trésor par hasard, le deuxième est certainement un riche qui est à la recherche d'une perle rare. Et nous savons que souvent les personnes qui cherchent des perles rares sont des gens fortunés. L'idée de la recherche est prononcée dans la première parabole. Dans la deuxième histoire. Et le premier, par contre, lui, le trouve par hasard. Alors c'est intéressant. Mais voyons d'abord le verset 44. Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Alors, la parabole nous parle d'un homme qui trouve un trésor. Or, il était de coutume à l'époque que nous ne sommes pas à la période des banques, nous ne sommes pas à la période où on peut mettre de côté son argent dans des coffres-forts, mais bien souvent pour protéger son or, son argent, sa fortune, on l'enterrait au fond d'un champ. D'ailleurs, on peut penser à la parabole des serviteurs des talents. Le troisième serviteur de la parabole des talents, lui, enterre son talent pour pouvoir le remettre tel quel à son maître. C'est ce que nous voyons, par exemple, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25. Matthieu, chapitre 25 et verset 18, où il nous est dit, effectivement, « Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. » Verset 25, « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. » Donc il était de coutume, effectivement, à l'époque, de pouvoir mettre son argent dans la terre pour être protégé des voleurs. Un ouvrier agricole, un journalier, trouve vraisemblablement un tissu, une jarre, et dans cette jarre, il trouve des pièces précieuses, des bijoux. Grande est sa joie. Il ne peut pas s'approprier tout de suite le trésor dans les conditions présentes, car le champ ne lui appartient pas. Aujourd'hui, avec les lois, si vous trouvez un trésor, savez-vous que vous allez recevoir la moitié, un pour vous et un pour le propriétaire. Alors, bonne chance. Alors, que fait l'homme dans notre parabole? Eh bien, il laisse le trésor à la place où il l'a trouvé. Il vend tout ce qu'il possède et vient proposer d'acheter le champ en offrant un prix qu'on ne peut lui refuser, c'est-à-dire un bon prix de façon à acheter quelque chose, un champ, sachant qu'il y a le trésor. Donc, le propriétaire ne peut pas refuser. Sa priorité est d'acquérir le trésor et il est prêt à se défaire de tout, de toutes ses possessions. Alors, deux problèmes se posent à nous, l'un légal, le second un peu moral. L'ouvrier avait-il le droit de recouvrir le trésor sans avertir le propriétaire de sa présence? C'est une question que l'on peut se poser. Est-ce un acte moral? Est-ce que Jésus accepte cela sans sanctionner cette attitude? La situation est assez délicate, d'autant que la loi mosaïque est très claire. Lorsque l'on regarde le Lévitique au chapitre 5 et versets 21 à 23, Lévitique chapitre 5, versets 21 à 23. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde ou volé en lui extorquant quelque chose, en niant avoir trouvé un objet perdu ou en faisant un faux serment à propos de n'importe quel péché que peut commettre un homme, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera l'objet qu'il a volé, ce qu'il a extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé. Ouf. Alors, pour apprécier la dimension de l'histoire, effectivement, il faut replacer un peu celui-ci dans un contexte particulier de l'époque. Je crois que ça, c'est important. Le problème moral est d'autant plus redoutable que si l'ouvrier sait ce qu'il y a dans le champ, il n'en parle pas au propriétaire. Alors, n'a-t-il pas enfreint une loi morale, à savoir mensonge, faux témoignage ou prendre possession d'un objet qui ne lui appartient pas? Il nous faut poser quelques questions de ce type et nous poser la question si cet homme n'est pas sans scrupules. Alors, qu'en est-il? Alors, au regard de la loi mosaïque, eh bien, le point capital, c'est que pour qu'un trésor puisse être en sa possession, eh bien, il suffit de le prendre, c'est-à-dire de se l'approprier, de le soulever, en fait, dit le texte, et éventuellement de le traîner, pour, si nécessaire, s'il est trop lourd. À la fois le soulever, à la fois le prendre. Et à ce moment-là, il peut appartenir à la personne. Dans notre parabole, le trésor n'a pas encore été soulevé par l'homme qui l'a trouvé. Pas du tout. Avant l'achat du champ, l'homme de la parabole ne s'en déclare pas du tout propriétaire. Encore quelques précisions complémentaires. Quel est le statut de l'homme? L'homme qui a trouvé le trésor, est-ce un serviteur ou est-ce un ouvrier, un journalier? Pour qu'il ait des possessions personnelles, ce n'est pas un serviteur, ce n'est pas un esclave. Car s'il avait été serviteur, il aurait été obligé de donner le trésor. Mais ce n'est pas le cas. C'est un ouvrier journalier et par conséquent, il n'était pas à même de rapporter tout ce qui se passait sur le champ. Et s'il trouvait quelque chose, il pouvait éventuellement le garder. Mais dans notre parabole, ce qui est intéressant, c'est que cet homme, au lieu de prendre le trésor, de se le garder et éventuellement d'être pris pour un voleur, se dit, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais tout vendre. Tout vendre pour acheter, c'est-à-dire me déposséder pour acheter ce champ. Ainsi, le propriétaire est gagnant. Et lui, de toute façon, il a trouvé le trésor. Il a pris des risques, il prend des risques. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans la vie, souvent, on a peur de prendre des risques. Ah, bien évidemment, prendre des risques signifie qu'on peut parfois ne pas tout gagner. C'est vrai. Mais il faut savoir prendre des risques dans la vie. Et l'Évangile est un risque. L'Évangile est un risque pour ma vie personnelle, apparemment. Parce que je peux perdre, et nous allons y revenir, mais je peux perdre. Je peux perdre certaines choses. Je peux même perdre parfois des amis. Parce que je me suis tourné vers l'Évangile. Mais revenons à notre parabole. Notre ouvrier achète ce champ. Le propriétaire est donc gagnant. Lui-même, une fois qu'il a acheté ce champ à un grand prix, va retrouver le trésor. Quelqu'un aurait pu le prendre entre-temps. Quelqu'un aurait pu le trouver entre-temps. Mais non, il prend ce risque. Et effectivement, le trésor est toujours là et il s'en accapare. Quant au propriétaire, eh bien, avait-il le droit d'avoir ce trésor? Eh bien non, parce que ce trésor ne lui appartient pas. Voilà que ce trésor a été déposé, comme dans nos deux exemples de départ, depuis des siècles et des siècles, peut-être des dizaines d'années, mais toujours est-il que ce trésor n'appartient pas au propriétaire, donc il ne pouvait pas s'en réclamer. Alors, voilà notre homme qui s'arrange pour acheter ce trésor à un prix maximum. Deuxième parabole, versets 45 à 46. Jésus enchaîne. Versets 45 à 46. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il l'a trouvée, une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a achetée. Voilà un homme, cette fois-ci riche, qui a des perles. Et là aussi, il se défait de tout ce qu'il a pour avoir cette perle précieuse. Alors, que nous disent ces deux paraboles? Eh bien, premièrement, on peut tirer que la valeur des objets découverts est soulignée dans les deux histoires. Une valeur inestimable. C'est notre premier point. Notre deuxième point, immédiatement après, notre homme se débarrasse de tout ce qu'il a. Il vend tout, les deux, le riche comme le pauvre. Il donne tout pour pouvoir s'approprier ce trésor. Troisièmement, rappelons qu'à la fois, pour l'un, la découverte est par hasard, quand pour l'autre, effectivement, il était en recherche depuis longtemps et enfin il trouve cette perle rare. Quatrièmement, il y a finalement une joie débordante, extrême. J'ai trouvé quelque chose de précieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez au moment, peut-être pour certains, de votre conversion, mais là, effectivement, c'est une véritable révolution. Et celui qui découvre l'Évangile, qui est né de nouveau, alors il a envie de le dire à tout le monde. Parfois mal, c'est vrai, mais il a envie de le dire à tout le monde. Voilà, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Cinquièmement, les deux paraboles appellent à un jugement des auditeurs sur la conduite qui vient d'être tenue. La décision de tout vendre est-elle sage? Est-elle condamnable? Est-elle à rejeter? Alors, nous saisissons la portée spirituelle de ces deux paraboles. Les renoncements décrits évoquent des renoncements auxquels nous sommes confrontés. Jésus nous appelle parfois à renoncer à certaines choses de nos vies. Mais cependant, au regard des bienfaits qui sont donnés, ce n'est pas grand-chose. On peut même opposer l'attitude des deux hommes de cette parabole à celle des invités récalcitrants. Rappelez-vous dans Luc 14, au moment où retentit l'appel, il y a trois catégories d'hommes qui refusent en disant « Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le temps, nous sommes trop occupés pour venir ». Or, à l'appel de Dieu, eh bien effectivement, il faut répondre d'une manière décisive et sans réserve. Aucune raison ne devrait nous faire hésiter. Et peut-être ce matin, quelqu'un est appelé, le Seigneur l'appelle. Et j'aimerais lire un texte ou deux dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9. Marc, chapitre 9, et verset 43 à 48. Marc 9, versets 43 à 48. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied te pousse à mal agir, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté en enfer dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil te pousse à mal agir, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer du feu. En effet, tout homme sera salé de feu. Alors, bien sûr, nous le comprenons aisément. Nous n'allons pas nous couper les mains. Nous n'allons pas nous arracher. C'est un hébraïsme. Ce que Jésus veut dire, effectivement, eh bien, c'est qu'il faut délaisser le mal. Lâcher prise avec le mal. Il faut parfois renoncer. Mais renoncer, c'est gagner. C'est gagner la vie éternelle. C'est gagner une perle, c'est gagner un trésor. Le Seigneur nous invite à gagner ce trésor. Toujours dans Marc 8, verset 35. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Je crois que ce sont des textes très intéressants et qui nous invitent à délaisser le monde, à délaisser ce qui nous retient, à délaisser le mal. Et je crois que ça, c'est important. Couper, se couper du mal. Lorsque Jésus rencontre le jeune homme riche, il lui dit, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. C'est une démarche révolutionnaire. Le Seigneur nous invite à tout lâcher. Alors la leçon centrale, les deux personnages, les deux paraboles, se retrouvent dans des situations extraordinaires. Ils réagissent d'une manière extraordinaire. Le Seigneur nous appelle effectivement à le suivre dans le monde présent, même si apparemment ce n'est pas facile, même s'il y a des difficultés, eh bien le règne de Dieu est présent. Il nous invite effectivement à faire comme dans ces deux paraboles. Alors, dans ces deux paraboles, il y a deux types d'hommes. L'un qui cherche et l'autre qui apparemment ne cherche pas. L'autre un peu qui est nonchalant spirituel. Il ne sait pas. Je connais des hommes, des prédicateurs aujourd'hui, qui étaient des nonchalants, des gens qui ne cherchaient pas forcément. Et tout d'un coup, ils ont trouvé. Par hasard. À l'inverse, il y a des hommes qui ont été en recherche, et nous pensons tout de suite à ce que dit l'Évangile, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Alors, nous faisons partie peut-être d'une catégorie ou d'une autre, je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas, ce que je vous souhaite, eh bien, c'est de trouver le trésor qui est dans l'Évangile. Alors, je connais une personne qui, effectivement, lorsqu'elle a commencé à étudier la parole de Dieu, n'y comprenait strictement rien. Elle a commencé l'évangile de Jean, elle ne comprenait pas. Et puis tout d'un coup, ça y est, elle a trouvé le trésor. Je vous souhaite, effectivement, de continuer à chercher et de rechercher la perle rare. C'est ma prière pour vous ce matin. En vous souhaitant peut-être de bonnes vacances.